Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Plaisir de vous retrouver à la une de l'actualité ce matin.
La promesse de l'archevêque de Paris, notre cathédrale est à genoux mais elle se redressera. Monseigneur Aupetit a voulu délivrer un message d'espoir lors de la messe célébrée hier soir à Saint-Sulpice. La reconstruction, c'est désormais le grand enjeu. L'heure de la mobilisation générale a sonné pour tous les charpentiers de France. Appel lancé par une entreprise de la Loire. Drame de la routière à Madère, 29 touristes allemands ont trouvé la mort. Et puis le foot, quand ça veut pas, ça veut pas. Le PSG a encore perdu hier à Nantes.
8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera Alexis Corbière, le député de la France Insoumise.
Europe 1. Il y a d'abord eu les cloches qui ont résonné à l'unisson dans toutes les cathédrales de France. Hier, c'était un peu avant 19h. Et puis, il y a aussi eu cette première messe célébrée par l'archevêque de Paris depuis l'incendie de Notre-Dame. De très nombreux fidèles avaient pris place dans l'église Saint-Sulpice. Une cérémonie entre ferveur et gravité. Victor Deland était sur place.
Dans l'immense vaisseau de l'église Saint-Sulpice, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, se tient debout pour son homélie. Ses premiers mots sont pour la cathédrale Notre-Dame.
Notre chère cathédrale est à genoux. Nous sommes meurtris, mais nous ne sommes pas abattus comme elle. Nous savons qu'elle est bien autre chose qu'un tas de pierres. Toutes les réactions du monde entier le montrent.
2000 fidèles réunis dans la nef, presque autant à l'extérieur, les yeux rivés sur l'écran géant qui retransmet la messe. Autant de chrétiens qui rassurent Anne, très touchée depuis l'incendie.
Le monde, ça veut dire qu'on n'est pas seul. On n'est pas un chrétien isolé.
Beaucoup de jeunes aussi dans l'assistance, comme Louis, il retient un moment bien précis de cette célébration.
Vous avez un moment de la messe où vous souhaitez la paix du Christ à votre voisin, juste avant la communion, pour être dans la plus grande charité possible. Et moi, je ne connaissais ni mes voisins, voisines, mais pourtant, je l'ai fait et j'ai senti une ferveur particulière, une émotion et une communion entre chrétiens face au malheur qui nous a touchés.
Une croyance partagée par de nombreux fidèles, comme si l'incendie de Notre-Dame de Paris était une occasion pour se retrouver, se serrer les coudes, pour mieux relever l'église catholique.
Victor Deland.
Reconstruction, c'est le mot qui est désormais sur toutes les lèvres.
Oui, vous le savez, Emmanuel Macron a promis qu'elle se ferait en 5 ans. De nombreuses voix s'élèvent pour dire que c'est une mission impossible. Et pourtant, à Firminy, près de Saint-Étienne, dans la Loire, une entreprise locale de charpente lance un appel à tous les charpentiers de France. Une mobilisation générale pour qu'à la manière d'un puzzle, chacun, dans son atelier, construise un morceau du toit de la cathédrale. À Firminy, Jean-Luc Bougeon.
S'unir pour frapper fort, c'est l'idée toute simple des dirigeants de l'entreprise Massardier. Dans cette société familiale de menuiserie charpente qui a récemment œuvré à la rénovation du Grand Hôtel Dieu de Lyon, on croit à une mobilisation générale de la profession et dans ce cas, le délai de 5 ans promis par le président de la République est tout à fait tenable, estime Raphaël Canata, chef du bureau d'études.
On pourrait découper l'ouvrage en plusieurs parties, une cinquantaine de mètres carrés, une centaine de mètres carrés, sur le nombre de charpentiers qui nous suivent. On va chacun fabriquer à l'atelier et ensuite l'acheminer à Paris par transport exceptionnel.
En 5 ans, est-ce que c'est possible?
Franchement, c'est possible, j'en suis certain. Il faut vraiment que tous les charpentiers répondent à cet appel, que l'on mutualise nos forces et ça sera possible.
Car chez Massardier, on ne veut pas entendre parler d'une charpente en béton ou en métal pour Notre-Dame de Paris. Ça n'aurait pas de sens, il faut respecter l'histoire du monument, juge Sandrine Chavanna, responsable administrative.
Une cathédrale du XIIIe siècle, enfin voilà, pour nous, c'est juste pas possible qu'un monument comme Notre-Dame soit bâti avec une charpente autre que bois. Elle était magnifique, cette charpente. Et effectivement, on a un savoir-faire en France des charpentiers, il faut pouvoir l'utiliser.
Et chez Massardier, on sait déjà quel bois on travaillerait, des chênes vieux d'un siècle, avec une circonférence de 2,50 m plantée en Bourgogne ou en Normandie. Firminy, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hélène Zelani, avec plus de 850 millions de dons collectés.
Oui, le milliard sera rapidement atteint, notamment grâce aux plus grandes fortunes de France. Rapidement, la polémique a éclaté. Opération de com, autant d'argent pour un édifice et rien pour la misère sociale. Plusieurs groupes ont donc décidé de refuser la réduction fiscale. François Geffrier.
C'est la famille Pinault qui a été la première à l'annoncer. Pas question de faire porter la charge de son don aux contribuables français. Alors que grâce aux 100 millions d'euros que sa société Artemis a donné pour Notre-Dame, ce groupe aurait pu faire baisser ses impôts de 60 millions d'euros. Chez JC Decaux également, on se montre désintéressé. Le groupe renonce à sa réduction fiscale attachée à son don de 20 millions d'euros. Chez LVMH et la famille Arnault, qui contribuent à eux seuls pour 200 millions d'euros à la reconstruction de Notre-Dame, on juge cette polémique stérile. Notre position est explique-t-on, chez le numéro 1 mondial du secteur du luxe, n'a pas été de faire venir des fiscalistes ou de faire des comptes d'apothicaire pour avoir ou non une déduction fiscale. Notre but était bien de dégager le plus vite possible des fonds pour Notre-Dame. De toute façon, cette défiscalisation liée aux dons est limitée par la loi. Chaque année, les entreprises ne peuvent pas déduire de leurs impôts plus de 0,5% de leur chiffre d'affaires. Par exemple, dans le cas de LVMH, quel que soit le montant de ses dons, le groupe ne pourra pas réduire ses impôts de plus de 140 millions d'euros.
François Geffrier, puis la Fondation du patrimoine, met en garde contre les escrocs qui profitent de l'élan de solidarité nationale et internationale. Elle ne fait aucune relance par mail, par courrier ou par téléphone. Toutes ces démarches sont frauduleuses.
Faites attention.
Et puis, honneur aux pompiers, à la mi-journée, Emmanuel Macron recevra à l'Élysée ceux qui sont intervenus pour éteindre l'incendie de Notre-Dame. Et puis, cet après-midi, à 16h15, un hommage leur sera rendu sur le parvis de l'hôtel de Vise.
La suite du journal, Hélène Zélani, avec ce bilan très lourd après l'accident d'un bus touristique sur l'île portugaise de Madère.
29 morts des touristes allemands, plus d'une vingtaine de blessés à Berlin. Le récit d'Hélène Kohl.
L'accident a eu lieu dans un virage à flanc de colline. D'après des témoins, le chauffeur du car aurait perdu le contrôle de son véhicule et dérapé sur la chaussée. Le bus de touristes est alors sorti de la route. Il a glissé sur le versant escarpé, fait plusieurs tonneaux, avant de s'encastrer contre le toit d'une maison qui se trouvait en contrebas. Le choc a tué sur le coup près de la moitié des passagers. Les corps ont été projetés sur le talus. Les blessés, parmi lesquels il y a le chauffeur et l'organisateur du voyage, ont été évacués à l'hôpital de la ville voisine de Funchal. Il a fallu plusieurs heures avant de pouvoir sortir tous les corps de la carcasse accidentée. Sur les images prises par des riverains et publiées par plusieurs médias allemands, on voit que ce sont tous des personnes âgées, tous des Allemands, selon le président du Portugal qui a appelé son homologue à Berlin pour présenter ses condoléances. Il y a aussi deux victimes portugaises, des habitants de Madère qui se trouvaient au bord de la route au moment de l'accident et qui ont été fauchés par le car. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Un verdict attendu aujourd'hui dans le procès en appel d'Abdelkader Mera. Hier, la défense en a appelé au courage des juges, mettant au défi de trouver la moindre preuve de complicité des 7 assassinats commis par son frère Mohamed en mars 2012. L'accusation avait requis la perpétuité.
Et maintenant, cette question, qui en veut aux propriétaires de résidences secondaires en Bretagne ?
Une question qui agite une douzaine de communes d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Dans les stations balnéaires, on a découvert de très gros tags sur les mairies, offices de tourisme et autres vitrines d'agences immobilières, des inscriptions pour dénoncer la multiplication des résidences secondaires et la spéculation immobilière. François Coulon s'est rendu à Quiberon.
Les vitrines de l'agence Britannia portent encore les stigmates de l'opération Commando, 64% en vert fluorescent. C'est le pourcentage des résidences secondaires à Quiberon. Autre chiffre, 5374, le nombre des logements qu'ils occupent. Lundi matin, le choc pour Caroline.
J'ai éclaté en sanglots. On ne travaille qu'avec des résidences secondaires. Les gens, ils me disent, bah, dis donc, il y a ça à Quiberon. Des groupuscules comme ça, du coup, ça va peut-être moins les inciter à acheter. On a des propriétaires qui nous ont appelés tout de suite dans l'heure et qui nous ont dit de ne pas mettre les panneaux à vendre sur leur maison. Sans résidence secondaire et sans touristes, Quiberon n'est plus rien.
À 20 km de la Carnac a subi le même traitement peinture lurée, un 72% rageur sur 6 commerces et la mairie d'Olivier-le-Pic.
Ça représente plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énormément de familles qui en vivent. Aller voir un menuisier, il va vous dire « mais moi, sans les résidences secondaires, je ne sais plus vivre ». La revendication qui consiste à dire « on veut vivre chez nous, mais sans emploi, sans économie, sans ressources », c'est très bien, mais ce sera sans moi.
Les 12 communes littorales bretonnes ciblées redoutent de nouvelles actions. Quiberon, François Coulon, Europe.
Football, jamais 203 pour le Paris Saint-Germain.
Non, mais décidément, ça va mal pour les Parisiens qui, pour la troisième fois, ont essuyé un échec. Ils ne sont toujours pas sacrés champions de France. Défaite hier soir à Nantes, 3-2. Et une ambiance très tendue, comme l'a constaté Julien Froment.
Les joueurs du Paris Saint-Germain interpellés par des supporters mécontents, ces mêmes joueurs traversant la zone de presse sans un mot. C'est un spectacle digne d'un club à la lutte pour le maintien, ce qui n'est pourtant pas le cas de Paris, toujours 17 points d'avance au classement et quasiment assuré d'être champion. Mais voilà, c'est dans son ADN, le club parisien aime se compliquer la vie. Hier soir à Nantes, tout est allé de travers, même l'entraîneur Thomas Tuchel n'avait pas le cœur à défendre son équipe.
C'est très facile d'analyser, on a joué très très mal. Et Nantes a gagné, mérité. Nous sommes heureux de ne pas perdre 4-5-1. Je défends toujours mes joueurs, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible.
C'est tout le paradoxe de ce Paris Saint-Germain-là. Sa saison en Ligue 1 est quasi parfaite, mais gâchée dans la dernière ligne droite. Deux défaites de suite, c'est du jamais vu depuis l'arrivée du Qatar. Et ironie du sort, Paris, qui court désespérément après le titre, peut désormais être sacré champion de France sans jouer en cas de faux pas dimanche du Dauphin Lillois à Toulouse. Nantes, Julien Froment, Europe 1.
Et à noter que les supporters parisiens ont rendu hommage à la cathédrale avec cette banderole.
Oui, on a vu.
Le PSG, notre club, Paris, Notre-Dame. Enfin, en Ligue des Champions, Tottenham et Liverpool se sont qualifiés pour les demi-finales hier soir. Tottenham qui affrontera l'Ajax Amsterdam et Liverpool Barcelone.
C'était Hélène Zélani pour le journal de 7h.